Festival InScience, c'est le festival de la santé et de la culture scientifique de l'INSERM. Du 1er au 15 juin 2023, partout en France et sur Internet, vous pourrez retrouver podcasts, jeux de réalité virtuelle, expositions, rencontres avec les chercheuses et les chercheurs pour déconstruire les idées reçues sur la santé et la recherche médicale. Comment un tel festival institutionnel a-t-il pu se monter à la fois dans toutes les régions en France, mais aussi sur Internet? Comment faire émerger de nouveaux formats et de nouvelles collaborations? Bonjour à toutes et à tous. Et bienvenue dans ce podcast consacré à InScience, le festival de la santé et de la culture scientifique de l'INSERM. Et quel meilleur endroit pour en parler que de se retrouver pour l'enregistrement de ce podcast à la toute première édition du festival Double Science, consacré à la vulgarisation et en direct du Grand Contrôle à Paris. Et nous découvrirons ensemble lors de ce podcast l'une des nouveautés de cette édition, à savoir InScience, la BD, qui met en scène les projets de recherche ANR de 10 chercheurs et chercheuses INSERM avec deux de ses scientifiques et son illustratrice en studio. À mes côtés aujourd'hui pour en parler et pour vous donner envie d'aller à ce festival qui aura lieu du 1er au 15 juin partout en France et sur Internet. J'ai donc à mes côtés Maïté Robert, bonjour. Vous êtes illustratrice et autrice d'une BD qui sort justement pour ce festival et dont on va parler longuement dans notre podcast. À vos côtés, Medisix, bonjour. Vous êtes responsable communication de l'INSERM Île-de-France. Un autre responsable de la communication, mais lui, Grand Ouest, c'est Pierre Da Silva. Bonjour. Et pour terminer, nous avons nos deux chercheurs et chercheuses du jour, qui sont Marie Gaumont. Bonjour. Vous êtes chercheuse INSERM à Ibrahim à Tours et vous êtes accompagnée de Jean-Julien, chercheur CNRS au labo FemtoST à Besançon. Première question à mes invités aujourd'hui, et plus particulièrement, j'ai envie de la poser à Pierre Da Silva et à Medisix pour commencer, qui sont nos représentants de l'INSERM aujourd'hui. À quoi ça ressemblait les communications de l'INSERM avant InScience? Pour qu'on ait un petit peu le contexte de création finalement de ce festival et les raisons pour lesquelles ce festival a été créé.
Je pense qu'auparavant, il y avait beaucoup d'actions qui étaient faites localement par les différentes délégations, mais sans forcément beaucoup de cohésion. En fait, on se tenait régulièrement au courant des actions des uns et des autres, et puis on participe aussi à des actions et des manifestations nationales, typiquement la fête de la science. Donc c'était un petit peu des choses qu'on avait l'habitude d'organiser, mais pas forcément tous sur la même période. Il y a quelques années de ça, on a un collègue sur la région PACA, donc un collègue marseillais, qui lui a mis en place spécifiquement sur la Corse une manifestation qui s'appelait l'INSERM Festival, qui était un petit peu l'ébauche ou la préversion de ce qu'est InScience aujourd'hui, avec beaucoup d'actions en présentiel, vraiment dédiées à la culture et la médiation scientifique, spécifiquement destinées au grand public. Il nous a fait part de ce projet-là, et nous aussi au sein de l'INSERM, on était en réflexion sur comment mieux travailler tous ensemble les uns et les autres, et comment donner plus de poids et de visibilité à nos actions. Et c'est un petit peu de là, en partant d'échanges entre nous en région et aussi avec la communication nationale, qu'on a réussi à aboutir au projet InScience tel qu'il existe aujourd'hui.
Donc la volonté était vraiment aussi de trouver un moment commun entre toutes les personnes qui peuvent travailler d'une façon ou d'une autre à la vulgarisation, à la médiation au sein de l'INSERM pour créer quelque chose en commun. Parce que ça a été l'occasion notamment de travailler avec Pierre peut-être.
Oui, après, il y a aussi la volonté de regrouper l'ensemble des événements qu'on peut avoir. Parce qu'il faut savoir qu'on a quand même pas mal de régions INSERM, délégations INSERM qui se sont regroupées. Et on est souvent seul pour travailler. Et le fait d'avoir énormément d'événements tout au long de l'année peut rendre la tâche un peu compliquée. Et on s'est dit, ce sera beaucoup plus simple de faire un événement sur une période donnée dans laquelle on regroupera les actions qu'on peut mener, des visites de laboratoire, les choses assez classiques au final, au départ. Et sur les dernières éditions, grâce à l'aide de l'ANR, on s'est dit qu'il fallait aller un petit peu plus loin que ça et proposer des médiums un peu différents, de faire de la BD, de faire du podcast, de faire des vidéos, de créer des comptes TikTok, des choses qu'on n'a pas trop l'habitude de faire et sur lesquelles on se lance maintenant aujourd'hui.
C'est vrai que les actions deviennent de plus en plus variées au fur et à mesure des éditions. D'ailleurs, c'est la combientième édition du Festival InScience ? C'est déjà la troisième. Quelles sont les nouveautés particulières de cette année ?
Bah, du coup, la bande dessinée.
La bande dessinée. Vous me donnez une parfaite transition, justement parce que nous sommes accompagnés de Maïté Robert, qui est illustratrice et autrice de cette bande dessinée. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur son nom, quand est-ce qu'elle va sortir ? Parce que je ne l'ai pas eu dans les mains, donc je suis pleine de questions à vous poser.
Elle sortira donc pour le festival, si tout va bien.
Alors, je crois que c'est une initiative qui est venue de l'INSERM, notamment de Pierre Da Silva, ici présent. Il n'est pas là par hasard. Comment est-ce que la graine a été plantée ? Ça a été vraiment une expérience où vous avez pu faire ce que vous aviez en tête ? Vous lui avez proposé un scénario ?
Alors, c'est Pierre qui m'a contactée au départ en me proposant un projet, en me disant... Au tout départ, est-ce que ça te dirait de faire de la vulgarisation, de recherches diverses et variées ? Et j'ai directement dit oui sans en savoir beaucoup plus, parce que ça m'intéressait beaucoup, le sujet. Enfin, comme j'étais très curieuse moi-même de lire toutes ces recherches et éventuellement justement d'échanger avec les chercheurs et chercheuses, j'étais bien motivée.
C'est la première fois que vous travaillez avec des scientifiques ?
Tout à fait. Ouais.
Et vous aviez peut-être un parcours scientifique ou c'est vraiment quelque chose qui vous intéressait ?
Pas du tout. Ouais, c'est intéressant. La réponse est pas du tout. Vraiment, j'ai fait un parcours littéraire, des plus arts plastiques, littérature. Et non, là, vraiment, c'était... pour moi, justement, c'était une expérience super et qui changeait un peu de mon parcours habituel, de mon quotidien. Et heureusement, voilà, j'ai cette curiosité-là et je me disais justement, ça va être d'autant plus intéressant que je vais devoir le survulgariser, on va dire, en passant déjà par moi, qui déjà les chercheurs et chercheuses, et Pierre aussi, qui était mon contact, vont devoir me le vulgariser, déjà me faire une première passe, en fait, de simplification. Et c'était ça qui était intéressant, c'est que moi, déjà, je devais comprendre ce qu'on m'expliquait avant de rajouter une petite couche de simplification par-dessus. Donc, c'était un challenge intéressant, quoi. C'était plutôt ça qui m'intéressait dans ce projet. Et ils m'ont proposé donc 10 thèmes différents, qui m'était imposé, on va dire, entre guillemets. Et à partir de là, voilà, j'ai dû moi-même lire ses recherches, parfois échanger, avoir des allers-retours pour bien tout comprendre. Et à partir de là, par contre, voilà, là, je pouvais le faire comme je voulais et raconter ça à ma manière et en rajoutant donc, ce qui m'appâte, ce qui est l'humour, rajouter des petites blagues entre les personnages, etc. Et ça a coulé de source à partir de là.
Vous avez créé une histoire qui se suit. Elles sont complémentaires les unes des autres ou elles sont indépendantes et on peut piocher dans les sujets de recherche et les BD qui sont faites ?
Elles sont complètement indépendantes, mais après, je ne crois pas qu'il y ait vraiment de blagues qui rebondissent les unes sur les autres parce que le principe, c'était vraiment qu'on puisse les lire de manière indépendante. Par contre, il y a des personnages parfois qu'on retrouve quand même, comme Blaise, qui est un personnage bien connu de l'Inserm apparemment.
Voilà. On aura l'occasion de peut-être un jour interviewer Blaise, le neurone. Concernant la participation des scientifiques, comment s'est faite cette collaboration ? Vous m'avez dit que vous n'aviez pas de parcours scientifique. Est-ce que vous avez réussi à trouver un langage commun pour justement pouvoir expliquer, pouvoir vulgariser et mettre en image ces thématiques de recherche ?
Alors au début, donc, ils m'ont donné des textes donc, qui ont été ma première approche. Parfois, de mon côté, j'ai dû faire quelques recherches Google, Wikipédia, sur des concepts qui peuvent, eux, leur sembler très, très simples, mais que moi, je devais réapprendre. Et pour deux ou trois sujets, j'avais des problèmes de compréhension sur certains détails. J'avais envie de vraiment bien retranscrire certains sujets dans la bande dessinée. Donc, j'ai demandé d'échanger avec eux. Mais voilà, peut-être qu'ils sauront mieux en parler puisque j'avais échangé avec Marie et Jean-Julien.
Justement, Marie, si vous vouliez commencer, précisément, on va parler de votre expérience à vous au cours de cette bande dessinée. Quelle était la thématique de recherche qui a été vulgarisée ?
Alors, on a été sollicité par Pierre pour présenter ce projet sous forme de bande dessinée. Et le projet qu'on a présenté, c'est un projet donc, qui a été financé par l'ANR. Hein, ça faisait partie des projets sélectionnés par les délégations régionales. Et c'est un projet qui porte sur les mécanismes de traitement du sourire vocal. C'est-à-dire quand on sourit, comment est-ce qu'on va intégrer le son qu'on perçoit? Comment on va se représenter que c'est un sourire qu'on est en train d'entendre? Et puis, est-ce qu'il va y avoir une contagion émotionnelle de sourire? Est-ce que nous-mêmes, on va sourire en retour à l'écoute d'un sourire? Ça, c'est le thème principal de ce projet. Et c'est un projet qui s'applique. Alors, on travaille à l'INSERM, donc il y a évidemment des visées médicales, hein, aux travaux qu'on développe. Et donc, c'est un projet qui s'intéresse à ces mécanismes-là dans les troubles du spectre de l'autisme. Parce qu'on sait que chez ces personnes, il y a parfois des particularités dans la façon de percevoir la prosodie, donc la musique du langage, hein, ce qui fait qu'on va pouvoir imprimer des émotions, des intentions dans notre parole. Et puis, il y a aussi des particularités au niveau de l'expression même de la prosodie, c'est-à-dire que c'est des gens qui vont parler de manière assez monotone, hein, sans vraiment varier, faire moduler leur voix quand ils veulent exprimer quelque chose. Donc, c'était intéressant de prendre ce modèle du sourire vocal et d'essayer de voir chez eux, comment est-ce qu'étaient perçus les sourires, intégrés, représentés un sourire, et est-ce qu'il y avait cette contagion émotionnelle à l'écoute des sourires. Pour ce qui est de la bande dessinée, on s'est intéressé à une partie plus spécifique du projet qui était l'explication de est-ce que le cerveau va percevoir ces sourires. On a focalisé sur une partie, je pense, plus du projet, hein, dans notre discussion et puis dans ce qu'on a présenté pour la bande dessinée.
Vous avez choisi de vraiment vous concentrer sur une partie du projet, peut-être relativement assez complexe, pour la vulgariser justement.
Oui, alors on a essayé d'expliquer du mieux qu'on a pu dans les échanges qu'on a eus avec Maïté, hein, le projet qu'on a en collaboration avec Jean-Julien. Je dis ça parce que vraiment, c'est un projet qu'on a monté à deux. Je ne sais pas à quel moment on passe la parole, mais son tour viendra. Mais en même temps, ce projet n'existerait pas si on n'était pas tous les deux. Hein, parce qu'en fait, c'est vraiment sa connaissance de tout le traitement du signal acoustique, vocal, etc. Et puis, sa manipulation du signal. Et puis, nous, notre expertise dans le domaine de l'autisme qui a fait que ce projet a pu naître, hein, et voir le jour, parce que sinon, voilà.
Est-ce que vous aviez déjà eu l'occasion de vulgariser, de présenter justement vos sujets de recherche, ou c'est la première fois que vraiment, à cette échelle-là, vous avez l'occasion
Alors, ce projet-là en particulier, à cette échelle-là, c'est la première fois, parce que c'est un projet qui est en cours. D'autres projets, oui, on a pu avoir des occasions, alors, notamment via l'INSERM avec les canals détox, et puis on a fait des petites vidéos courtes, parfois on a des petites vidéos YouTube aussi qu'on fait, parce que dans le domaine de l'autisme, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à essayer de clarifier, hein, vraiment, parce que c'est un domaine un peu sensible, hein, parfois. Donc on essaye, hein, de faire de l'information au maximum et de vulgariser. Après, évidemment, il y a les événements classiques, la fête de la science, la semaine du cerveau, des choses comme ça.
C'est, ce qui était marrant dans ce projet, c'est que c'est un projet, comme tu l'as expliqué, Marie, qui est très radiophonique, en fait. C'est-à-dire que c'est super, on travaille sur la voix, quand on sourit, on l'entend, si je souris pas, ça change le son de ma voix, enfin voilà, on peut faire du son, et là on s'est retrouvé avec une BD, et je pense que c'était ton challenge à toi de dire, bon, je fais quoi, comment j'écris des sons, est-ce que j'en parle, et ça c'était marrant, parce qu'on s'est retrouvé avec ce challenge un petit peu de, et je trouve, toutes les solutions que tu as trouvées étaient vraiment chouettes, et en plus... ça nous multiplie un peu dans nos têtes des façons de parler de nos trucs. Parce que c'est vrai que moi, ce genre de travaux, typiquement, voilà, il me faut un micro pour en parler, quoi. Et donc là, c'est chouette d'avoir cet aspect visuel.
Surtout que le traitement du signal, en effet, peut être vraiment représenté par du son. Mais quelles ont été les astuces, justement, Maïté, que vous avez utilisées pour représenter graphiquement peut-être quelque chose qui représenterait de l'émotion ou du son, justement?
En bande dessinée, c'est vrai que là, je me suis un peu amusée pour les sons. Littéralement, ça a été du coup le sujet d'une blague où j'ai dit qu'est-ce que c'est que ce son? Est-ce que c'est une chèvre qui m'ébat tout en décédant à moitié? Enfin, parce que effectivement, j'avais le problème de je ne savais pas exactement quels étaient ces sons. Et heureusement, du coup, on a fait une visioconférence du coup où Marie et Jean-Julien ont pu m'expliquer un peu mieux tous ces détails-là. Et j'ai pu les apporter dans ma BD, mais c'est vrai que je peux pas forcément tout représenter. Et c'est pour ça aussi que je représente tout de manière très simplifiée. Que je représente, par exemple, une oreille que deux yeux, deux mains et deux pattes, et voilà, qui va parler elle-même. Et qui va dire, alors, ah oui, moi j'ai entendu ça. Et les yeux vont dire, mais attendez, je comprends pas, moi j'ai vu ça. Et le cerveau va dire, ah bon, mais entendez-vous les gars, parce que moi aussi j'ai des informations à traiter. Enfin, c'est un peu comme ça que j'ai réuni à chaque fois dans toutes les bandes dessinées, dans celle-ci et d'autres. Mais à chaque fois, voilà, j'ai essayé de faire parler en fait les différents organes, protéines, neurones, c'est eux qui prennent la parole. Et c'est comme ça, voilà, que j'ai réussi à mettre en scène tout ça de manière aussi très simplifiée, très visuelle. Justement, c'est comme ça qu'on arrive à en faire un visuel très simple et très facile à comprendre.
Donc, c'était vraiment, pour le coup, une BD à trois voix. J'ai envie de vous dire. Et Jean-Julien, vous avez eu peut-être l'habitude de un peu plus vulgariser, de proposer un peu plus de format autour de vos sujets. Est-ce que la bande dessinée, justement, ça a été une première pour vous ?
Ah oui, c'est absolument une première pour moi. Je ne sais pas pour toi, Marie, mais oui, même chose aussi, ouais. Il y a d'autres initiatives de BD qu'on connaît, qu'on a pu même acheter ou quoi. Enfin, voilà, il y a des choses que c'est... Mais c'est vrai que sur nos travaux, précisément, c'est vraiment une première. Il y a aussi quelque chose que j'ai trouvé d'assez original dans cette démarche, c'est que moi, c'est peut-être la première fois que je communique sur un projet, donc collaboratif, comme le disait Marie, qui est pas vraiment fini, en fait, un projet qui est en cours, quoi. C'est-à-dire qu'on a, nous, scientifiques, c'est peut-être pas forcément connu pour tout le monde, mais on a souvent l'occasion de parler au moment où on publie des choses, en fait. C'est-à-dire qu'on publie un article, ça veut dire qu'on a... C'est souvent des travaux qui datent de 3 ans, qu'on a analysés, qu'on a discutés, qu'on a écrits, qu'on a envoyés pour relecture dans des revues scientifiques, qui sont revenus avec plein de critiques, qu'on a corrigées. Le processus prend des années. Le truc finit par être publié. Et parfois, il y a, par exemple, les organismes, l'INSERM, le CNRS, peuvent faire des communiqués de presse quand les résultats sont un peu intéressants, etc. Et là, souvent, on a l'occasion de communiquer. Mais c'est vraiment après coup, finalement. Et c'est aussi des moments où on a besoin d'expliquer un résultat très précis. Ben, voilà, on a mesuré ça, on a trouvé ça, on a conclu que ça. Là, on était presque plus à expliquer l'intérêt de ce qu'on faisait et d'expliquer des concepts scientifiques, finalement. On a plus parlé du contexte scientifique du projet que des véritables résultats. Et pour cause, parce qu'on n'en a pas encore, des résultats. On était en réunion ce matin pour discuter de courbes et tout ça. Donc, on est vraiment dedans, là. Et donc ça, je trouve que c'est très agréable pour nous aussi d'avoir l'impression de faire l'objet d'un reportage en cours, quoi, et pas juste d'arriver après coup, d'une certaine façon, ce qui est très bien aussi, mais qui est peut-être plus courant dans nos métiers, quoi, de dire on a trouvé ça, voilà, je vais vous expliquer ce que ça veut dire. C'était presque plus pédagogue et puis plus challenging aussi pour nous, parce que c'est marrant d'arriver à dire, bah, tiens, c'est vrai, pourquoi est-ce qu'on fait ça, en fait ? Ou qu'est-ce que ça veut dire, ce qu'on fait ? Enfin, c'est des questions un petit peu différentes.
La manière dont on essaye d'expliquer tout ça à chaque fois, bah, on utilise souvent du conditionnel et à chaque fois, dans la dernière case, on essaye de dire ces recherches pourraient permettre ceci, pourrait permettre plus de connaissances dans tel domaine ou une avancée dans le médical. À chaque fois, voilà, on fait une ouverture, mais c'est vrai qu'à chaque fois, on essayait de dire que bon, rien n'était encore posé, mais que la recherche avançait justement. La recherche est toujours en cours et c'est vrai que c'était très intéressant d'avoir aussi cet aspect-là.
C'est moins simple en fait, quelque part, parce que quand on a les résultats finaux d'une étude, on sait où on sait exactement où on va, c'est-à-dire qu'on sait exactement le point final, ce que va être le point final du discours, en fait, et de l'histoire qu'on va raconter. Là, on a bien une idée, on a des hypothèses quand même, on ne travaille pas, on travaille pas dans le brouillard complet. Mais évidemment, on vous a livré la démarche qu'on avait, nous, c'est-à-dire on pose l'ensemble des éléments dont on dispose dans la littérature, dans ce qu'on connaît, notre expérience et ce qu'on a mis ensemble et inventé ensemble, en gros. Et puis, on suppose que ça va déboucher sur tel et tel type de résultat. Donc, c'est vraiment le processus, en fait, qu'on vous a présenté. Et moi, j'ai trouvé que, par rapport aux échanges qu'on avait eus entre la toute première fois et puisque vous nous avez rendu en premier jet hein, de BD, vous aviez intégré tout ce qu'on avait dit d'une façon qui était vraiment... Enfin, alors, soit on s'explique très, très, très bien, soit vraiment... Mais vraiment, j'ai trouvé que c'est très bien rendu. Il y avait quelques petites choses de terminologie, vraiment, simplement à ajuster, mais c'était l'histoire qu'on avait racontée, quoi, enfin qu'on vous avait proposée. Donc ça, c'est un travail d'intégration vraiment de ce qu'on vous avait dit, qui était assez impressionnant, moi, j'ai trouvé.
Je pense qu'il y a une chose aussi que j'aimerais bien dire, c'est que je pense qu'on a vraiment trouvé la bonne personne pour faire cette BD. J'ai été assez scotché sur le fait qu'il n'y a eu aucune connaissance scientifique et de savoir aussi bien retranscrire en si peu de temps, parce que franchement, le projet a été fait... dans des conditions temporelles pas toujours très simples. Et moi, je trouve le résultat génial. Je suis presque sûr. Je ne voudrais pas trop m'avancer, mais je crois qu'il y aura bien un tome 2.
Oh, c'est une exclusivité que vous avez aujourd'hui. Il y aura probablement un tome 2. Et j'imagine que le fait d'aller chercher un acteur ou une actrice, en l'occurrence, peut-être un peu plus éloigné des schémas classiques pour faire des conférences, faire des tables rondes, même faire des podcasts. Le fait d'aller chercher quelqu'un vraiment du domaine de l'art, qui n'a pas fait de carrière scientifique, permet aussi d'avoir un autre support pour parler de la recherche avec un regard justement de non-scientifique.
Ça permet d'avoir un recul que nous, on ne peut pas toujours prendre. Au départ, on avait vraiment envie de faire une BD. Bon, je suis fan de BD. Quand j'ai découvert le travail de Maïté, je me suis dit, il faut que je trouve un moyen de faire un truc avec elle, c'est obligé. Et avec ma collègue Claudia Pereira de Montpellier, on s'est dit, ouais, c'est vrai qu'une BD, ça peut être sympa, Et quand on a vu son travail, on s'est dit, on va lui proposer quelque chose. Et on n'avait pas forcément encore l'idée au départ. On s'est dit, on va donner carte blanche. C'est vrai qu'on se désengage un peu du côté en se disant, bah, son travail est tellement bien qu'elle va forcément nous proposer quelque chose de bien. Et je pense que c'était le bon plan. Parce que vraiment, on avait le côté où on connaît les recherches de nos laboratoires, on connaît un peu nos chercheurs, on comprend un peu ce qui s'y fait, mais on a un peu ce côté où on le sait, on ne va pas toujours avoir la même facilité à vulgariser que quelqu'un qui va prendre beaucoup de recul, qui va nous dire « bah non, je suis désolé, je ne comprends rien ». Nous, on se dit toujours qu'on comprend quand même un peu et on n'interprète pas du tout de la même manière. Et je trouve que là, ça a vraiment donné quelque chose qui est très très fort et qui est hyper drôle en plus.
Donc c'est vraiment complémentaire, il y a une complémentarité qui s'est créée justement avec, entre des scientifiques, des non-scientifiques, le milieu de l'art et le milieu scientifique. Est-ce que ça donne des idées peut-être de nouveaux formats, de choses qu'on aurait envie de tester dans les années futures du festival ou...
Alors vaste question, ce que je peux dire c'est que je pense que depuis 2-3 ans, et en ce sens-là la pandémie a beaucoup aidé, c'est que nous à l'INSERM, mais j'imagine pour plein d'autres institutions, il a fallu repenser les modes de communication et les façons dont on voulait s'adresser au public. Les formats en présentiel de conférences, tables rondes ou visites de nos laboratoires qu'on avait l'habitude d'organiser dans le cadre d'InScience ou dans le cadre d'autres manifestations, on ne pouvait plus les faire. Et donc il a fallu collectivement se poser un petit peu la question de comment continuer à s'adresser au public en temps de confinement, en temps où on ne pouvait pas se rencontrer les uns et les autres. Donc en soi, c'est vrai que la bande dessinée qu'on a travaillée avec Maïté permet ça aussi, en plus d'autres formats en distanciel que j'ai cité tout à l'heure, donc les podcasts et les vidéos. Par contre, ce temps de, un petit peu où on était enfermé a aussi permis quand même de continuer à avancer sur des projets un peu plus au long cours et d'autres façons d'innover. Je pense notamment aux jeux qu'on est en train de développer à l'INSERM, jeux de société ou jeux en réalité virtuelle. Ce sont aussi d'autres types de formats qu'on a réfléchi et qu'on a réussi à mettre en place qui permettent une nouvelle fois de continuer à parler de science auprès du public et d'amener, alors cette fois c'est par le jeu, mais d'amener les citoyens, les citoyennes, les scolaires, le grand public, les associations à continuer à s'intéresser à ce qu'on fait dans nos laboratoires de recherche et ça de façon un petit peu décalée. Donc c'est vrai que dans les dernières années, on a beaucoup innové, en tout cas j'espère. Il y a toujours de la place pour développer de nouveaux formats, mais en ce sens-là, je trouve que les 2-3 dernières années ont été vraiment importantes en termes de communication et de nouveaux projets à mettre en place.
Au-delà du format qui est une première du coup pour le Festival InScience d'utiliser une BD, la volonté de montrer la science qui se fait, la science vraiment qui se passe dans les labos, qui est faite par les chercheurs et les chercheuses, c'est aussi une volonté du festival de montrer comment ça se fait.
Oui, absolument. C'est vrai qu'au final, montrer la science qui se fait, mais de manière générale, toute l'expertise des équipes de recherche de l'INSERM, c'est un peu notre travail en termes de communication tout au long de l'année, pendant le festival InScience, mais aussi à d'autres moments. Et c'est vrai que là, alors avec la BD, mais aussi avec d'autres formats et d'autres actions qu'on va proposer sur le festival, je pense qu'elles se rejoignent un petit peu toutes sur cet objectif commun de vouloir montrer et parfois déconstruire les idées reçues qu'on a sur la recherche, où on peut se dire c'est des vieux savants en blouse blanche qui font un peu on ne sait pas trop quoi derrière des murs fermés. Et en fait, souvent, c'est pas du tout ça. Et on essaie aussi de montrer aux citoyennes et aux citoyens que la recherche qui est faite, elle est aussi faite pour eux, pour au bénéfice de leur santé, de la société, et que tout ça, on le fait dans le respect de certaines règles aussi, c'est important de le rappeler. Et je trouve que là, ce qu'on a réussi à faire, en tout cas j'espère avec le Festival InScience, c'est qu'on propose une diversité de formats qui permettent à chacun et chacune d'entrer par une porte différente. Donc là, on a beaucoup parlé du projet bande dessinée, mais on a aussi conçu des reportages vidéo, on a aussi des podcasts, on a des expositions, en plus de toutes les actions en présentiel qu'on organise partout en France. Et c'est vrai que là, on voulait aussi alors un peu se faire plaisir sur la diversité qu'on propose, mais aussi permettre à tout le monde de pouvoir s'y intéresser d'une façon ou d'une autre en fonction de leurs appétences et des formats qui, eux, vont leur convenir.
Donc concrètement, si on ne peut que vous conseiller, auditeurs et auditrices, évidemment, de se jeter sur la bande dessinée du coup de Maïté Robert qui sortira à l'occasion du Festival InScience. Si on a envie de voir justement ces événements en local, ces événements qui sont préparés pour ce festival, avez-vous un conseil, une recommandation à nous partager ?
Absolument, j'invite tous ceux qui le peuvent à revenir ici même à Grande Contrôle le samedi 10 juin. De 13h à 20h, où l'INSERM Île-de-France investira le lieu pour une journée exceptionnelle, où on proposera différentes rencontres, tables rondes, des jeux, des quiz, vraiment plein de choses pour venir s'intéresser à la science. Il y aura beaucoup de doctorants qui viendront animer des stands un petit peu type fête de la science, où ils présenteront leurs travaux de recherche dans le cadre de leur thèse. Il y aura également une table ronde sur la question de l'inclusivité en santé et le fait d'être une femme dans la recherche. On animera également des jeux de société dont j'ai parlé juste avant. Donc voilà, ce sera vraiment une grosse et belle journée avec une programmation riche et j'invite tout le monde à venir nous rencontrer à ce moment-là.
Merci à Maïté Robert, Marie Gomeau, Jean-Julien Aucouturier, Mehdi Six et Pierre Da Silva. Et merci à vous d'avoir écouté ce podcast consacré à InScience, dont vous pouvez consulter l'ensemble de la programmation sur inserm.fr et ses réseaux sociaux. Un podcast produit par les équipes de Double Science et du Grand Contrôle, animé par Dunia Saez.